Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
En Dordogne, en 1976, une maison de famille, des amis, une fête bien alcoolisée, un drame qui restera une affaire non élucidée. Le souvenir, la culpabilité en filigrane, les dures vicissitudes de la vie, l'impossible oubli. Roman à suspense, pas vraiment polar, roman psychologique sans doute. Autant d'interrogations légitimes qui vous interpelleront au début de ce récit. Mais attention, soyez attentifs. Vos méninges vont être mises à rude épreuve. Vous allez être inexorablement entraînés dans une histoire stupéfiante et à rebondissement. Une histoire d'amitié compliquée, de vie mouvementée, de vie volée, de réussite, de déception, de blessures émotionnelles et de domination psychologique. Une histoire de secrets du passé qui hante, ressurgit et bouleverse la vie d'un groupe d'amis. Lecteurs, vous allez malgré vous devenir partie prenante à cette enquête, à la fois témoin et détective. Des indices vont vous être progressivement distillés, vous maintenant dans un suspense addictif qui vous tiendra en haleine jusqu'à l'épilogue de ce roman. Peut-être, si vous avez été suffisamment vigilant, parviendrez-vous à identifier les sentinelles impatientes tapis dans l'ombre tout au long de votre lecture. Tel est le défi auquel vous confronte Françoise Le Gloaec dans son dernier roman « Impatiente sentinelle » paru aux éditions Ramsay. Bonjour Françoise Le Gloaec.
Bonjour Philippe Gilbert, merci de m'accueillir.
Radio Présence est vraiment ravie de vous accueillir dans ces studios. La première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir si ce roman « Impatiente sentinelle » est en vente libre compte tenu de son caractère addictif et stupéfiant.
Oh, vous êtes très gentil. Oui, bien sûr, mon roman « Impatiente sentinelle », vous le trouverez dans toutes les librairies. Bon, si vous ne le trouvez pas, c'est qu'ils ont bien tort, mais ils peuvent le commander. Et également dans les espaces culturels, Cultura, toutes ces surfaces de vente.
Parfait. Alors, on va peut-être passer un petit, pour que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux. Vous êtes une Parisienne bretonne devenue landaise.
Et encore, vous ne savez pas tout, parce que mes racines à moi sont dans les Hautes-Alpes. Alors oui, bon, pour être plus clair, je suis née à Paris. Et à 20 ans, je suis partie en Bretagne. Ce qui m'a permis de me nourrir des légendes bretonnes et de me tourner aussi vers tout ce qui est mystérieux. Et je suis ensuite venue habiter les Landes, où je réside toujours, depuis une vingtaine d'années.
Donc, on peut dire que vous êtes landaise maintenant.
Alors, pour moi, je suis landaise. Pour les landaises, non. Pour les landais, non. Je suis expatriée, quoi.
Oui, c'est ça. Il faut être né au pays, hein.
Oui,
souvent.
Et puis quand on a un nom comme le mien, c'est très difficile de passer inaperçu.
Ah, oui.
L'avantage, c'est que les gens se rappellent de moi quand ils voient le nom sur le livre.
Voilà, donc c'est un argument marketing, votre nom.
Voilà, exactement.
Bon. Alors, vous êtes une grande écrivaine, puisque vous avez publié plus une trentaine, je crois, de livres.
J'écris depuis environ 25 ans, mais pendant les 20 premières années, j'ai écrit pour la jeunesse, pour les enfants de 2 à 12 ans. Après, je me suis lancée comme défi d'écrire une trilogie pour adolescents. C'est un petit peu la marche intermédiaire. Et j'écris pour les adultes depuis 5 ans. 5 ans, donc 4 romans sortis et le cinquième en cours d'écriture.
Et alors globalement, quelles sont vos sources d'inspiration les sujets qui vous inspirent le plus, sur lesquels vous avez le plus envie de bâtir des histoires?
Je pense que ce sont plutôt les sujets qui me choisissent. Je laisse les choses se faire et le sujet se présente comme ça. Et à chaque fois, ça m'entraîne dans des recherches incroyables. Mais jamais je fais demi-tour. C'est-à-dire que même si c'est très très long et s'il y a une collecte très importante, eh bien, j'y mettrai tant qu'il faut, mais je reste dans ma ligne.
D'accord. Alors, j'ai lu quelque part que vous aviez déclaré « J'essaie d'écrire des livres que j'aimerais lire ». Donc, c'est un choix aussi,
oui.
Ça.
Disons que quand je lis un livre, il faut que je sois emportée tout de suite. Parce que quand je regarde ma pile à lire, je me dis je n'ai pas le temps de perdre 100 pages pour trouver un intérêt au livre. Et comme je veux accrocher mes lecteurs, il faut qu'ils soient ferrés du début. Donc dans les premières pages, il faut que déjà je le tienne, quoi.
D'accord. Ce qui est le cas dans l'ouvrage d'aujourd'hui. Mais je le dis pour les auditeurs, on va y revenir. Alors, une fois que vous avez fait ce cheminement, est-ce que la construction, l'agencement du livre, c'est quelque chose qui vous vient spontanément ou c'est une construction qui se fait au fur et à mesure, qui change tout le long de l'écriture? Comment ça se passe? De toute façon, on va y revenir dans la construction de ce livre.
Alors, en général, quand le sujet m'a choisi, comme je disais, je vais commencer mes recherches sur l'époque, sur les événements historiques qui se sont passés à ce moment-là, sur l'actualité, sur la vie des personnes, des gens à cette époque-là. Alors, donc, les recherches peuvent être très longues, ça dépend un petit peu du sujet, mais j'adore faire des recherches, donc ça ne me gêne pas. Ensuite, je me mets à réfléchir quand même à l'histoire et j'imagine une trame, en faisant passer certains, effectivement, traitant certains sujets en plus du contexte historique. Et là, je vais m'attacher à écrire deux lignes à peu près par chapitre jusqu'à la fin.
D'accord.
Et donc, du coup, je connais approximativement la chute, même si parfois elle me réserve de sacrées surprises quand même.
Voilà. Donc vous surprenez vous-même.
Oui, tout à fait.
Alors, à la lecture de ce roman, à l'issue de cette lecture, j'ai essayé de trouver des qualificatifs. Hein. On essaye toujours de faire des rapprochements avec d'autres lectures et des types de romans. Alors, j'ai vu dans ce livre le roman psychologique, l'aspect polar thriller. J'y ai vu la dénonciation des violences faites aux femmes. Une histoire d'amour et d'amitié, hein, d'amitié croisée. J'ai vu aussi, portrait de femme, une galerie de femmes. J'y ai vu aussi personnellement un test pour les ménages du lecteur, hein, c'est clair. Un jeu de pistes et un petit peu un récit sur les vicissitudes de la vie. Et puis il y a aussi l'aspect purement enquête policière aussi qui jaillit dans ce roman. Vous le qualifierez comment ?
Oui, je pense que je le qualifierais comme un thriller psychologique, oui. Pour la petite histoire, lorsque je me suis attaquée à cette écriture, c'était pour moi un nouveau challenge. Je voulais qu'il soit différent des deux premiers et que ça me permette de voir ce que je pouvais faire en travaillant le suspense plus. Donc je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre quand même. Et finalement, à la relecture, je me suis dit, ça va, tiens la route. Je l'ai fait lire autour de moi un peu quand même, pour voir si c'est grand si, parce que si jamais on vous pose des questions à la lecture, c'est qu'il manque des choses. Ou c'est des choses que j'avais peut-être dans la tête, mais que j'ai juste oublié de mettre dans le livre. Voilà, donc ce suspense a bien fonctionné. J'avoue que c'était pour moi aussi une expérience. Et bon, d'après les retours que j'en ai, ça marche bien.
D'accord. Combien de temps vous avez mis pour écrire entre le moment où l'idée vous est venue et où vous avez écrit la dernière ligne?
Je dirais qu'il faut une bonne année. une année entre le moment où j'ai trouvé le sujet, où le sujet m'a trouvé, comme je vous disais, et le moment où je dis, bon là, il a l'air d'être prêt. Ça veut dire qu'on passe par plusieurs étapes, la recherche donc, de documentation qui est très souvent longue, que je fais en amont, ce qui ne m'empêche pas d'en faire d'autres au fur et à mesure, parce que j'aborde des sujets pour lesquels je n'ai pas suffisamment de matière. Et ensuite, eh bien, je vais écrire un petit peu sans m'arrêter sur des passages que je juge pas forcément aboutis. Je préfère les marquer, les surligner, et je continue jusqu'à la fin. Et là, je suis très contente parce que j'ai fini. Sauf que la première écriture, je dis toujours, c'est la plus facile. La deuxième écriture, celle qu'on refait et quand on reprend le livre, elle est très difficile parce qu'on voit tout ce qui ne va pas. Et aussi, surtout, il faut raboter. C'est-à-dire enlever tout ce qui est pas mal, mais qui n'a rien à faire dans l'histoire. Et bon, se censurer soi-même, ce n'est pas toujours très facile. Voilà, donc, et rajouter ce qu'on a oublié de dire et qu'on a pensé. Donc ça prend beaucoup de temps. Et là, je dirais que autant dans la première écriture, je peux écrire quelques heures par jour, autant dans la deuxième, c'est toute la journée, parce qu'il ne faut pas que je perde le fil du tout de mon histoire et que je vois bien comment ça marche.
D'accord.
Et aussi, ce qu'il faut soigner, c'est le style. Ça aussi, il faut que ce soit quand même agréable à lire.
Voilà. Et ça vient dans un second temps.
Ah oui. Oui. Bon, je ne dirais pas que j'écris n'importe comment au départ, mais c'est vrai que le style, l'équilibre des phrases, oui, c'est souvent dans la deuxième écriture. C'est pour ça que je dis qu'elle est beaucoup plus difficile que la première. La première, on travaille le sujet.
D'accord. Et est-ce que quand on écrit un roman, donc on écrit une histoire, il faut que l'histoire tienne la route. Donc, il faut qu'il y ait visé à une cohérence totale. Vous prêtez attention à la cohérence à quel moment de l'écriture ?
Alors, la cohérence, je la travaille au début, à la première écriture. Ce qui ne m'empêche pas de faire des modifications. Parfois, je me dis, oh, mais qu'est-ce que tu as mis là ? T'as oublié d'ouvrir la porte, alors t'as un personnage tout d'un coup qui est là, on ne sait pas d'où il vient. Comme il ne faut pas oublier de fermer la porte en sortant. Hein. Voilà. Oui, la cohérence, je pense qu'il faut vraiment être vigilant à toutes les étapes de l'écriture. De la première, de la deuxième et la troisième, dont je ne vous ai pas parlé, la relecture, voilà. Qui est encore nécessaire après une petite pause.
Et alors, cette relecture, justement, vous la faites pas seulement vous-même.
Alors, mon ennemi, c'est la précipitation. C'est-à-dire que, heureusement, j'ai un éditeur qui est patient. C'est moi qui dis « je suis prête ». Donc, ça veut dire que je vais prendre le temps de relire, de me faire relire aussi. Mais je relis d'abord. D'accord. Et après, si j'estime que ça pourrait aller à peu près, que ça devrait aller normalement, je m'adresse à deux ou trois personnes qui ont l'habitude de me lire et qui ne sont pas là pour me dire que c'est bien.
Voilà. Parce qu'on a coutume de dire que quand on écrit, au bout de deux ou trois relectures, finalement, on ne voit plus les choses parce qu'on est passé dessus plusieurs fois, ça vient de nous et c'est difficile de détecter les choses.
C'est exact, complètement. Au bout de trois lectures, moi, je ne suis plus capable de voir s'il y a quelque chose qui oui. cloche, quoi. Hein. Et en plus, comme je vous disais, c'est que quand on relit, de toute façon, comme l'histoire habite celui qui l'écrit, il ne voit pas ce qui va manquer, puisque lui, sur le cerveau, complète ce qu'il n'a pas forcément mis sur le papier. Donc bon, je fais quand même une troisième lecture, après c'est lu par deux, trois personnes, et ensuite par mon éditeur. Et là je vous avoue que le livre après, quand il est sorti, je ne l'ouvre plus.
Oui.
Pour moi il a, bon j'ai fait mon travail, il va mener sa vie, pour moi c'est terminé, j'ai rempli ma mission.
D'accord. Alors l'objectif initial, l'idée de ce livre, Au départ, c'est quoi qui a été le déclencheur?
Alors, c'est d'abord, bon, je vous disais, c'est que je voulais travailler le suspense de manière plus importante. Et disons que 1976, c'est l'année de ma jeunesse. Et ça me plaisait bien de raconter la vie, surtout des femmes à l'époque, de ces jeunes femmes. Et c'est cette période où on se croyait que tout était abordable et finalement on prenait de grands risques sans le savoir.
D'accord. Bien, je vous propose de faire une première pause musicale.
Là ont de l'humour, ils ont toujours le mot qu'il faut. Avec pas de détour, ils connaissent tous mes défauts. Ces gens-là, ils ont du cœur. Oui, madame, si vous saviez combien ils ont essuyé mes pleurs et enterré mes chagrins. C'est la vie. Qui veut ça? Le destin, madame, je ne vous mens pas. C'est la vie qui veut ça. Les amis, madame, on ne les choisit pas. Ces gens-là, ils parlent fort et n'ont pas peur de se fâcher. Ni de dire qu'ils ont eu tort pour se réconcilier. Ces gens-là, ils ont compris. Oui, madame, ils ont compris que pour vivre cette vie, il faut garder ses amis. C'est la vie qui veut ça. Le destin, madame, je ne vous mens pas, c'est la vie qui veut ça. Les amis, madame, on ne les choisit pas. Comme on aime se retrouver et se dire que rien n'a changé, que ni les mois ni les années, que n'ont rien à compter. C'est la vie qui veut ça. Les amis, madame, on ne les choisit pas. C'est la vie qui veut ça. Si vous voulez, madame, je vous fais une place chez moi. C'est la vie.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie de Françoise Lecloaec pour son dernier roman, Impatiente Sentinelle, paru aux éditions Ramsay. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête, finis les promesses qui tournent dans ma tête. Françoise Lecloaec, pourquoi ce choix de chanson?
Disons que c'est peut-être, il s'agit peut-être d'une identification à ma propre existence, je suppose. Et puis, comme je suis une personne assez émotive, ce qui me sert beaucoup dans l'écriture, ça me touche énormément.
C'est le côté émotion.
Oui, hein, tout à fait. Je trouve que dans cette chanson, il y a énormément de choses qu'un auteur peut décliner. Ouais. Chaque phrase est une inspiration.
Alors, j'ai reçu de temps en temps des auteurs qui avaient écrit des livres autour des chansons. Et donc, on faisait le rapprochement entre l'écriture et les chansons en tant que source d'inspiration. Et il y en a un en particulier, il citait tellement de chansons que à la fin du livre, il avait marqué la bande-son du livre.
D'accord, hein? C'est une super idée.
Ah ouais, voilà,
mais c'est franchement,
ça.
Oui.
Et c'est pour ça, quand vous dites que ça vous parle beaucoup, ça vous inspire, c'est vrai que, quelque part, je pense que vous n'êtes pas la seule et que c'est l'écriture, la musique, la chanson, c'est quelque chose qui se marie.
Complètement. Ouais. Alors, néanmoins, autant je suis réceptive aux paroles d'une chanson, autant, lorsque j'écris dans le silence.
Oui.
Il me faut le silence total pour pouvoir être dans mon univers.
Voilà, donc vous vous coupez du monde, là.
Je me coupe complètement du monde.
D'accord.
Ouais. Pas toute la journée, hein, quand même. Ouais, ouais. Mais un certain nombre d'heures, quand même.
C'est intéressant.
Mais je connais, j'ai un tas de collègues qui, eux, écrivent dans la musique, notamment la musique classique. Mais je pense que, à mon niveau, je ne peux pas le faire parce que si les paroles m'intéressent, je vais écouter les paroles. Donc je sors de mon inspiration. La musique, c'est pareil. Si elle est belle, je vais l'écouter.
Et donc ça va vous distraire.
Ah ben oui, ça va forcément me distraire.
Oui. D'accord.
Donc, je vais l'écouter avant, après, mais pas pendant que j'écris.
Alors, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de la construction de vos romans de manière générale. Pour celui-là, c'est un vrai mécano, hein. C'est construit dans le détail. Et alors, on voit que c'est construit dans les détails. C'est comme ça que ça m'est apparu, moi. Parce que vous donnez des indices, ou des semi-indices, des pistes. Et alors, je le dis aux auditeurs, j'en ai relevé 67.
Ah oui, quand même.
67. Et à chaque fois, on croit avancer un petit peu dans la compréhension. Et l'indice suivant vous dit, là, tu t'es trompé, c'est pas ça. Voilà. Alors, comment vous avez distillé ces, je dirais, presque des fausses informations, quelque part?
Là, ça a été un régal. Ouais. Franchement, c'était bien. Parce que, bon, ça m'a demandé un peu plus de travail parce que j'écrivais un chapitre. Et le suivant, il fallait qu'il soit dans la même ligne, mais néanmoins qu'il le contredise. Je pense que l'écriture, avant d'écrire des romans, j'ai travaillé sur des nouvelles. Et la texture de la nouvelle m'a beaucoup aidée. La nouvelle, en fait, c'est un texte court, vous écrivez 4 pages, 10 pages au maximum, en travaillant sur la chute. Mais pendant la lecture, enfin le lecteur donc, doit se dire « Ah oui, c'est comme ça que ça va se passer à ce moment-là. » Et finalement, il pense avoir deviné. Et puis là, après, « Ah ben non, c'est pas ça. » Mais là, ça doit être quand même plutôt ça. Et finalement, lors de la chute, il va se dire « Ah ben non, c'est pas la chute que j'avais vue. » Et pourtant, j'y avais pensé un moment, mais après, j'ai oublié.
Voilà.
Et donc, c'est pareil pour le roman, je me suis servi de cette technique-là.
Et alors, c'est une technique qui marche bien parce qu'effectivement, au courant de cette lecture, on se remet complètement en cause. Et personnellement, par exemple, je me suis dit, oulala, il y a quelque chose qui t'a échappé, il faut que tu retournes un petit peu en arrière. Alors, j'insiste sur ce sujet-là parce que ce que je veux dire, c'est que on dit toujours, on oppose toujours, par exemple, un roman et un poème, en disant, une phrase de Bobin qui dit « Pour lire un roman, il faut quelques heures, pour lire un poème, il faut toute une vie ». Eh bien, pour lire vos romans, il ne faut pas que quelques heures, finalement, parce qu'il faut savoir s'arrêter, réfléchir et revenir un petit peu en arrière.
Ça me ravit, hein, parce que justement, je pense de mes ouvrages pour adultes, c'est celui qui demande à être lu le plus lentement.
Voilà. Tout à fait.
Parce que sinon, vous ratez les indices.
Voilà. Et pour le coup, je pense que c'est un roman qu'il faut lire sans écouter de la musique en même temps.
Parfaitement.
On est d'accord.
Tout à fait.
Alors, naturellement, lorsqu'on parle d'un roman, on essaye de ne pas déflorer le sujet et surtout la fin du roman. Alors, est-ce que, très rapidement, vous pouvez, pour nos auditeurs, leur expliquer de quoi il s'agit, mais sans trop en dire, naturellement.
Oui. Alors, un patient de sentinelle commence en fait par quelque chose d'assez tragique, puisque lors de la fin de l'année universitaire, quelques amis étudiants se retrouvent pour fêter cette année et s'offrent un petit voyage en Dordogne. Et là, lors de ce séjour, ils font la fête, quoi. Ils boivent un peu trop et finalement arrive ce qui risquait d'arriver, un accident. Et une des jeunes filles fait chute et décède. Et le groupe donc rentre sur Bordeaux, puisque c'est là où ils habitent. Et chacun essayant de supporter ce drame, ils s'aperçoivent assez vite qu'ils ne peuvent pas le faire ensemble. Que se retrouver, ce n'est plus possible. Voilà, ça c'est le début de l'histoire, comme je vous disais. Je pense que j'ai accroché déjà le lecteur. Donc après, il va se passer plusieurs années où on va suivre surtout justement les femmes, parce que c'est quand même, ce livre ça s'adresse plus aux femmes, effectivement. Donc ces femmes vont vivre leur vie séparément et on va suivre les péripéties qui les animent les unes et les autres. Et puis un jour, elles vont essayer de faire table rase du passé, à l'occasion d'une rencontre fortuite, ils vont se retrouver, mais pour constater que ça ne marche plus du tout. Et en même temps, ça va réactiver quelque chose qui est le doute sur cet accident. Qui est finalement, est-ce que c'était un accident ?
Voilà, gros point d'interrogation autour duquel est bâti ce roman. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce roman est en partie une galerie de portraits de femmes. Alors, il y en a quatre. Il y a Claire, Lucie, Angela et Diane. Est-ce que vous pourriez nous tracer un petit portrait de Lucie, par exemple?
Oui. Alors Lucie, c'est une jolie jeune fille, classe, sage, avec l'esprit froid, qui ne se laisse pas embobiner facilement. C'est une sorte d'ovni un petit peu au pays de la décontraction de cette époque des années 70 et toujours impeccable. Bon, il faut reconnaître, elle est née du bon côté de la vie. Ses parents sont aisés, mais elle a l'intelligence de ne pas trop montrer sa classe sociale à ses amis. C'est comme ça qu'elle les conserve, en fait. Voilà pour Lucie. La deuxième jeune fille, c'est Angela. Oui. Alors Angela, c'est une jolie brune aux yeux sombres et au caractère bien trempé. Comme son nom l'indique, elle est d'origine italienne, fille d'émigrés, un petit peu bloquée dans les traditions. Sa vie est une bataille perpétuelle avec ses parents pour essayer d'acquérir cette liberté qu'elle envie à ses amis. Et ensuite, il y a Diane. Alors Diane, c'est la cool attitude. Elle est ronde, assumée, et c'est la comique du groupe. C'est aussi une enfant de la DAS qui cache sous un humour un peu forcé des fois des blessures bien plus profondes. Et même si elle a essayé de suivre ses amis dans les études, elle s'aperçoit que la première année d'université pour elle sera la dernière aussi. Et enfin, il y a Claire. Alors Claire, c'est la jolie nana, la fantaisiste, l'imprévisible du groupe. Les garçons tombent sous son charme et son charisme touche même ses amis, qui se montrent finalement très indulgentes avec elle, sans même s'en apercevoir.
Et alors ces jeunes femmes qui sont différentes sont malgré tout très liées.
Oui, elles sont liées parce qu'elles sont amies depuis le lycée. Et cette amitié leur permet d'être une forme d'indulgence complètement spontanée.
Voilà. Alors, en parallèle, il y a des personnages masculins. Il y a Jeff, Patrick et Hugues. Pour ce que je caractériserais des personnages masculins principaux.
Oui, voilà.
Hein? Et ensuite, il y a donc Jean-Pierre, Laurent, Grégoire et Yazel. Alors, certains se connaissent, d'autres ne se connaissent pas. Comment vous les avez imaginés? Comment vous les avez fait naître?
Alors, certains je les ai identifiés dans, je dirais pas mon entourage, mais dans les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Ça aide, ça. Vous savez, vous prenez le nez d'une personne, l'œil droit d'une autre. Surtout pas décrire la personne entièrement, sinon ça ne va pas le faire. Hein. Mais s'inspirer de sa manière d'être. Bon, je vois par exemple Jeff, c'était le fanfaron, celui qui a besoin toujours de prouver qu'il est le meilleur, le plus beau. Bon, ça cache quoi? Ça cache l'inverse, en fait. Ça cache ce besoin de reconnaissance qu'il n'a pas. Voilà, Patrick, c'est le bon gars, tranquille, qui suit un peu Jeff, mais bon, finalement, c'est l'occasion d'approcher les filles.
Et donc, ces caractères vont un petit peu être mis à l'épreuve de situations compliquées. Et selon vous, ce sont les femmes ou les hommes qui arrivent à mieux réagir, à mieux faire face à ce qui se passe de dramatique dans le roman?
Alors, vais-je oser le dire? Oui, je pense que ce sont les femmes qui s'en tirent le mieux, même si elles vont rencontrer énormément de difficultés, mais la résilience est plus forte chez elles.
Ouais. Bon, c'était un peu mon impression. Effectivement. Et c'est... Vous avez l'impression que c'est qu'on peut en tirer des généralités sur la manière de faire face, la résilience face à des situations difficiles?
Non, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment une affaire de personne et une manière de supporter les coups du sort que vous réserve la vie. Mais c'est plus une affaire de mental et de personne que de sexe.
D'accord. Le personnage que vous avez eu le plus de plaisir à inventer, à mettre sur pied?
Oh. Allez, je vais vous le dire quand même, c'est Yazel.
Ah, voilà. Voilà. Alors, on n'en dira pas beaucoup plus.
Non, non, non. Mais franchement, lui, il m'a demandé beaucoup de travail, mais je l'ai adoré. Ah. Adoré dans l'horreur, mais adoré quand même.
Ah, ouais. C'est vrai que... Il a un bon profil. Hein?
Ah oui, quand même.
Il a un bon profil. Et le personnage féminin?
Que j'ai le trouvé le plus intéressant, je dirais... Je dirais Diane quand même.
Ouais.
Celle qui avait le moins de chance de s'en tirer et qui finalement arrive petit à petit à... donner un sens à sa vie, à trouver l'équilibre et à surtout rebondir face aux aléas de son existence.
D'accord. Françoise Lecloëc, je vous propose une seconde pause musicale.
Je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas. Jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. ma tête tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus. Qu'un jour tout s'arrête, finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête, tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. N'insiste pas, il est temps d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas, c'est ce que tu m'as dit, tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu caches bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Faut que tu me... Un jour tout s'arrête, finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête, finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête, tournent, tournent dans ma tête.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie avec Françoise Le Cloaec pour son dernier roman, Impatiente Sentinelle, paru aux éditions Ramsay. Françoise, pourquoi ce titre, ce coup-ci ?
Alors le titre, certains auteurs connaissent le titre au début du livre, eh bien moi c'est l'inverse, c'est à la fin. C'est-à-dire que le livre finalement, au fil de l'écriture, va avoir plein de titres différents. Et c'est vraiment à la fin que je trouve le titre qui s'adapte à l'histoire. Et bon, j'aime beaucoup les titres en opposition, les mots en opposition, là, impatiente, sentinelle, ça s'oppose forcément. Je fais, bon, celui d'avant c'était pareil, et pour moi impatiente sentinelle ça voulait dire qu'il y avait un guetteur mais avec une idée, avec un objectif qui mettrait le temps qu'il faut, mais cette sentinelle, ces sentinelles allaient l'atteindre au moment où ce sera possible.
Oui, ces sentinelles sont ne lâchent rien.
Ah non, non.
Ne lâchent rien. Alors, je précise aux éditeurs que cette notion de sentinelle est à rapprocher des indices dont nous vous avons parlé, et que c'est ça qui fait, je dirais, la colonne vertébrale de l'aspect énigmatique du roman. Et c'est très bien travaillé puisque, effectivement, il n'y a pas qu'une sentinelle, il y a plusieurs sentinelles. On a l'impression, plus ou moins précise, qu'elles recherchent un peu la même chose, mais on n'en est pas certain. Puis après, on en est convaincu. Puis après, voilà. Donc, vous jouez beaucoup sur cette ambiguïté et la duplicité, voire plus. De ces sentinelles.
Oui, tout à fait. Déjà, ce que je n'ai pas précisé, c'est que pendant que ces jeunes qui sont devenus un peu moins jeunes essaient de vivre une vie la meilleure possible avec ce drame, le lecteur aperçoit les ombres qui gravitent autour d'elles. Les ombres qui vont s'introduire chez eux, laisser des indices, et ça va créer la pression parce que chaque individu du groupe, en fait, va la ressentir sans jamais oser en parler aux autres. Et donc, on sent que ces ombres qui gravitent autour d'eux, elles ont un motif. Pourquoi sont-elles là et que veulent-elles?
Et alors, effectivement, on a l'impression dans le roman que, finalement, de temps en temps, le lecteur serait peut-être plus attentif que les personnages. Hein, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui se passe.
Ah, ouais. Oui.
Oui, tout à fait.
Ah oui, le lecteur, on a l'impression que le lecteur, en fait, reçoit l'information et que les personnages, eux, ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Ils sont un peu largués par rapport au lecteur. C'est ce décalage que je voulais.
Voilà. Et alors, c'est ce décalage qui, moi, je trouve, qui fait beaucoup l'originalité de ce livre, dans la mesure où on commence par un chapitre qui est, je dirais, relativement classique en termes de problématique, d'histoire, et on est vite détrompé.
Oui, puis dans le livre, en fait, l'histoire va crescendo. Plus on avance dans le livre, plus la tension monte, jusqu'au moment où c'est la dégringolade, quoi.
Voilà. Alors, dans ce roman, comme on l'a dit partiellement tout à l'heure, vous en profitez pour aborder un certain nombre de thèmes, qui sont des thèmes qui sans doute vous tiennent à cœur. Alors, chacun de ces thèmes, on va essayer d'en parler, mais on va quand même opérer une petite censure, parce qu'effectivement, si on parle de certains thèmes, on dévoile un petit peu une partie du roman lui-même.
Tout à fait.
Hein, voilà.
Tout à fait.
Donc, on peut dire que vous abordez le sujet de secrets de famille.
Oui.
Voilà. Mmh. Parmi les portraits que vous dressez, il y a beaucoup de cette notion de repli sur soi et de jalousie aussi.
Oui. Ça. Également. C'est vrai que c'est difficile hein, de ne pas trop en dire.
Oui, non, mais c'est pour ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est partant du principe que dans les personnages, la grande partie description des personnages, je dirais, c'est portrait de femmes.
Oui, hein, exactement.
Donc sur cet aspect-là, je veux dire des choses, c'est la capacité de ces femmes à gérer le repli sur soi, à gérer leur jalousie.
Bon, oui,
c'est pas quelque chose d'original ou des spécifiques à vos personnages, mais c'est quelque chose que vous aviez sans doute envie d'évoquer dans des personnages, parce que ça correspond à la réalité.
Voilà, gérer la jalousie en trouvant chez l'autre le meilleur. Elle s'attachait entre elles à ne remarquer chez l'autre que... Enfin, non, elle voyait tout, elle voyait la jalousie et tout, mais à privilégier en fait le bon côté de la personne.
Oui. Et juste pour répondre à cet aspect-là, vous êtes très... Je dirais très intéressé à montrer le côté... bienveillance qu'il peut y avoir dans les individus et justement sa cherté finalement.
Oui, voilà. Je trouve que nous vivons une époque où on ne voit pas forcément, on est tellement dans le matériel et dans le paraître qu'on ne voit plus le côté bienveillant, le bon côté des gens. On est trop, c'est le rythme, c'est les impératifs de notre société actuelle. Eh bien, il faut s'y attacher aux gens pour... trouver ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors naturellement, il y a une dénonciation des violences faites aux femmes.
Oui, en 1970.
Voilà, donc en lisant ce livre, on se dit que le sujet n'était pas mis autant en avant sur la place publique et que néanmoins... Il y avait des situations
Oui, à l'époque, je pense que les violences faites aux femmes, il y en avait peut-être autant que maintenant. La différence, c'est qu'on ne le disait pas et que les femmes, pour les plus chanceuses, se débrouiller pour trouver une sortie de cette violence. Mais il était intéressant de l'aborder pour qu'on voit la différence avec ce qui se passe maintenant, même si ce n'est pas parfait au niveau du secours qu'on peut apporter à ces personnes. À l'époque, il n'y avait rien.
Ouais.
Rien du tout.
Et dans le roman, on s'aperçoit que, pour rebondir sur ce que vous dites, il n'y avait rien du tout, on s'aperçoit que les personnages qui subissent des violences, finalement, ne peuvent compter que sur elles-mêmes et sur leur entourage immédiat.
Oui, sur elles-mêmes, sur leur entourage immédiat, et même pas. Parfois, ouais. L'entourage immédiat ne savait même pas,
ouais.
C'était ouais. Le cas. Mais peut-être plutôt tomber sur des individus isolés, des gens qui d'abord étaient conscients de ce qui se passait et surtout offraient leur aide. Mais c'était une affaire de personne, c'était pas une affaire de structure, ça n'existait pas, c'était pas une affaire que l'on racontait non plus. Parce qu'il y avait une forme de honte, comment on a pu se laisser violenter comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui arrivait dans tous les milieux sociaux.
Alors au-delà de ça, un des derniers thèmes que l'on peut aborder, c'est cette notion de vie volée dans le roman.
Oui, cette vie volée... Vous parlez de Claire ?
Oui.
Voilà. Oui, Claire a sa vie volée par défaut de méfiance, par défaut de prudence, en fait. Par cette envie qu'elle avait de mordre dans tout à la fois. Et ben, malheureusement, sa vie était très courte.
Voilà.
Mais c'est sa vie qui va animer l'histoire. Même si c'est une courte vie, mais c'est sa vie qui va animer toute l'histoire et elle sera présente dans toute l'histoire.
Donc, les lecteurs s'en rendront compte au fur et à mesure. Alors, ce que je voudrais préciser aux lecteurs, c'est que on a parlé longuement de la construction de ce roman, qui reste énigmatique jusque... à l'avant-dernière page, et on s'aperçoit que c'est encore plus énigmatique à la dernière page. Et ça, c'est, je dirais, bien joué.
Merci.